Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Et nous sommes toujours très heureux quand nous vous savons très nombreux sur la 93.5, également sur nos différentes plateformes digitales pour suivre cette émission déjà à partir de 11h. Après le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, c'est le tour du général Abdourahman Tiani du Niger de s'offrir 5 ans de mandat renouvelable sans élection. Il a été investi président de la République hier mercredi jusqu'au 26 mars 2030 au moins. Le général présidera aux destinées de ce territoire africain une investiture qui coïncide avec un autre événement de taille, notamment la signature de la charte de la refondation, un test à valeur constitutionnelle qui dissout les derniers vestiges de la démocratie, en l'occurrence les partis politiques. La démocratie ne prend-elle pas un coup dur au Niger? Que vous inspire cette situation du Niger? Nous en parlerons dans cette émission Club de la Presse avec nos confrères journalistes en studio. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce jeudi 27 mars 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Akoutia sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéhor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul, nous sommes à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité des sujets, bien sûr, qui font l'actualité dans notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Jean Le Grand Polorini. Bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour aux confrères en studio, à l'invité. Bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée. Mes salutations à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur les ondes de Canal FM. Plaisir de vous retrouver ce jeudi.
Nous sommes aussi très heureux de te retrouver ce jeudi. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Tout le plaisir est pour moi.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et celui-là également qui est toujours fidèle et accepte toujours aussi notre invitation, c'est bien sûr Ambroise Kondo. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous ici, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Saint-Cassis jusqu'à Lomé, les radios partenaires, les villes des radios partenaires, salut à ceux de la diaspora. Si tu le permets, je voudrais profiter pour envoyer ce message. On parle de la nuisance sonore. La nuisance sonore est un fléau qui détruit. Qui cause beaucoup de dégâts sur le plan sanitaire. Ça, beaucoup ne le savent pas. Et cette nuisance sonore, on accuse souvent les églises. Mais il n'y a pas seulement les églises. Et ensuite, il ne faut pas aussi s'en prendre aux églises pour s'en prendre.
Et d'autres parlent aussi des mosquées.
Il y a des mosquées. Moi, je l'ai dit ici. Je l'ai dit que depuis les temps immémoriaux, les églises, c'est les cloches qu'on sonne. En Europe, partout. Mais à partir des années 1980 jusqu'à 90, ces histoires de cloches est terminée, à moins que vous soyez dans un village. Mais on ne peut pas être en plein ville et qu'il y ait encore de cloches. Mais la cloche est moins sonorisée que, comment on dit ça, les mosquées. J'ai dit ici que j'ai été à Kara, j'étais surpris qu'il y a 3 mosquées qui entourent l'hôtel Concorde, la ville de Kara. On était à un séminaire et déjà à 4h du matin, tu es réveillé. Moi, je n'ai pas aimé. Parce que des fois, à un moment donné, moi particulièrement, le cerveau, j'arrive à dormir à partir de 3h du matin jusqu'à 6h. Et donc, vous imaginez, quand ça commence, et nous, on ne supporte pas le bruit. Quand ça commence, pim, comme ça, tu te réveilles, c'est fini. Et quand tu te réveilles, sans avoir eu un sommeil apaisant, ton système immunitaire diminue. Ça, c'est les médecins qui vont confirmer. Maintenant, on parle des églises. Les églises aussi, ils en font de trop, des fois, surtout ces églises disent réveillées dans les quartiers, dans plusieurs quartiers. Moi, je n'ai rien, je suis chrétien, je n'ai rien contre eux. mais j'aurais aimé qu'ils soient, qu'ils se comportent comme des églises traditionnelles, les églises protestantes, catholiques, où vous allez voir à moins qu'il y ait un événement dans la semaine. C'est le dimanche seulement. À moins qu'il y ait un grand événement où il y a un concert, c'est tout. Mais vous allez voir nos sœurs et frères des églises réformées. Nous sommes aussi des régimes réformés. Hein. L'église presbytérienne, par exemple, est une église réformée. Mais on ne fait pas aussi des tapages à telle enseigne. Les gens ont construit de façon contiguë au niveau des à côté des maisons où les enfants étudient. La dernière fois, j'ai dû interpeller un pasteur. C'est bodo, du lundi jusqu'à dimanche. Et il y a un groupe musical là qui réveille tout le monde dans le quartier. Moi, je n'ai pas aimé ça. C'est en cela que je dis, je suis chrétien, mais je suis contre. La Bible dit, vous n'êtes pas obligé, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est l'inverse biblique qui le dit. Et donc, on n'est pas obligé de crier. Ça, je dépose. Ce qui en merde en plus, et que l'arrêté dont on parle, qui vient du ministère de l'Intérieur, doit s'occuper, c'est ceux qui sont des voisinages. Vous allez imaginer que, déjà à partir de 23h, quand vous êtes prêts à dormir, c'est maintenant votre voisinage, eux ils se réveillent. Tous les enfants, tout le monde se réveille. Avec des casseroles, bang, jusqu'à 2h du matin. J'ai suivi un média ce matin, je crois que c'est Victoire FM. Non, c'est Nana FM. Et vous allez voir le monsieur qui est là. Tous ceux qui ont appelé, ils ont confirmé cela. Et pour dire qu'on ne parle pas seulement des mosquées et des églises. Il y a aussi des bars. Il y a quoi encore le menuier, là, il faut lui réglementer l'heure. Et il y a aussi l'autre là, ceux qui, des soudeurs. Des soudeurs à 13h à midi et des shoemakers, c'est-à-dire que des cordonniers ambulants. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ceux qui sont au voisinage de votre maison. Vous ne dormez pas. C'est maintenant, lui revient et les enfants, tout le monde se réveille à minuit, 1h du matin. Et donc, moi, je tiens. C'est un coup de gueule, mais qui a son importance pour que le ministère s'en charge. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont constitués en association qui vont aller interpeller les gens. C'est le travail des mairies, c'est le travail du ministère de l'Intérieur territorial.
J'en ai fini. Merci Ambroise Kondo pour votre coup de gueule. Je pense que le message est passé. Nous sommes avec un autre confrère, c'est Hector Namang. Hector, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien.
C'est la première fois que je vous retrouve alors dans ce studio. Je rappelle que vous êtes journaliste et aussi spécialiste de l'environnement. Oui. Et vous êtes directeur de publication du journal en ligne Vert Togo. Nous allons aborder des sujets liés à l'environnement tels que vous avez écrit même d'ailleurs des articles qui nous intéressent bien. Oui. Donc nous allons en parler dans cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui te remercie.
D'accord, merci. Nous sommes avec un invité, bien sûr, de l'OTR, c'est Monsieur Egbami Mazameso. Monsieur Egbami, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Voilà, vous êtes chef session TVM à l'Office togolais des recettes. Et c'est vrai que depuis un temps, il y a ce message pour alerter les uns et les autres à payer justement la TVM et aussi l'échéance qui court déjà à sa fin. Et là, vous êtes en studio avec nous. Alors pour en parler et pour justement rappeler aux uns aux autres que non, on doit vraiment payer alors la TVM. Alors concrètement d'abord, hein, qu'est-ce que nous attendons par la TVM?
Merci beaucoup Pascal. Bonjour à vos confrères. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à l'endroit de Canal FM pour l'accompagnement permanent. Hein. Je suis avec vous depuis plus de 4 ans dans cet exercice pédagogique et surtout le canal que vous nous offrez pour un dialogue permanent entre l'Office togolais des recettes et les contribuables qui sont aujourd'hui nos partenaires, et ce qui est une priorité aussi pour le comité de direction de l'Office togolais des recettes. Effectivement, la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, c'est une taxe directe assise sur tout engin ou véhicule propulsé par un moteur en République immatriculé en République togolaise.
Voilà. Alors pourquoi le législateur l'a institué?
Merci beaucoup pour cette question. Je crois que l'occasion est toute la bienvenue pour clarifier une fois de bon par rapport à l'essence même de la taxe. Et vous savez que la TVM résulte d'une norme communautaire qui a été transposée dans le dispositif législatif national. Et je m'explique. Vous savez que le Togo ne vit pas en vase clos économiquement. Nous faisons partie d'un espace communautaire, lui et moi. au cours des années 2000, il y a un plan directeur qui a été défini dans l'espace sous l'autorité de nos dirigeants pour définir des investissements en termes de grands travaux dans la sous-région. Donc, dès la mise en application de ce plan, il a fallu trouver un mécanisme pour mobiliser une ressource additionnelle afin de financer l'entretien de ces grands travaux, notamment les infrastructures routières. Donc, c'est dans cet ordre d'idée que le 20 novembre 2018, à travers la loi 2018-024 portant co-gérant des impôts, la TVM a été instituée. Mais quand, de l'autre côté aussi, quand vous parcourez un peu les axes prioritaires de la feuille de route gouvernementale, notamment sous l'impulsion du chef de l'État, vous allez voir que les investissements en termes d'infrastructures routières prennent une place prépondérante. Donc, tout ce mécanisme et tous ces enjeux-là définissent l'institution de cette taxe-là.
Alors, qui sont ceux qui sont habilités à payer la TVM et combien doivent-ils payer?
Voilà, comme vous l'entendez, on dit taxe sur véhicule à moteur. La taxe sur le véhicule à moteur, c'est tout propriétaire ou détenteur de véhicule propulsé par un moteur en République togolaise qui est censé payer cette taxe. Et vous n'êtes pas sans savoir, même le gouvernement, les institutions de la République, les ministères, et les plaques vertes généralement paient leur TVM. Actuellement, il y a une procédure administrative qui est en cours à travers la direction du Gara Central et le Trésor. Et d'ici demain, je crois que nous aurons nous allons recouvrer leur imposition que nous leur avons envoyée. Donc c'est tout à fait. Donc c'est tout détenteur de véhicules, à l'exception de certains véhicules qui ont été exonérés par l'article 157 du Code général des impôts, notamment les véhicules dont les propriétaires bénéficient d'un privilège diplomatique, les véhicules des forces armées et les véhicules des personnes à mobilité réduite, etc.
Alors, par quel moyen on paye la TVM?
Tout à fait. La TVM, comme je vous l'ai dit, vous le savez très bien, vous étiez au cœur même de la communication. Et nous avons évolué de la quittance manuelle à la quittance sécurisée. Nous sommes aux vignettes. Aujourd'hui, nous sommes au paiement en ligne. Chaque loi de finances, c'est la loi de finances qui définit la grille tarifaire par rapport au paiement de la TVM. Et quand je prends les véhicules affectés au transport de personnes, dont la puissance figure entre 5 et 7 chevaux, la tarification annuelle est de 10 000 francs. Entre 8 et 11 chevaux, 15 000 francs. Entre 12 et 15 chevaux, 20 000 francs, etc. De façon graduelle. C'est en fonction de la puissance fiscale définie sur la carte grise que le tarif.
Mais est-ce que les propriétaires d'engins à 2 roues aussi payent la TVM, puisque c'est aussi un véhicule?
Évidemment. Quand vous prenez la grille tarifaire en vigueur, vous allez voir les motos dont les cylindrés sont supérieurs à 125 cm3 paient la TVM. Les tricycles paient la TVM. Mais la spécificité à leur niveau, c'est que le paiement est unique et définitif. C'est-à-dire l'immatriculation. Dès que vous payez ce genre de moto ou bien votre tricycle, au cordon douanier, au moment de la liquidation des droits de douane, la TVM est liquidée là-bas une fois de bon. C'est à titre définitif. Dès que vous sortez votre véhicule immatriculé, vous avez la plaque, c'est fini, vous n'allez plus payer.
D'accord.
Notamment, maintenant, pour les autres véhicules, les véhicules affectés au transport de personnes et les véhicules affectés au transport de marchandises, la première année, c'est toujours au cordon douanier, et l'année qui suit, entre le 1er janvier et le 31 mars, vous avez l'obligation de procéder à la déclaration de paiement de votre TVA.
Le 31 mars, c'est dans quelques jours. Concrètement, c'est quoi le message que vous voulez délivrer à travers même d'ailleurs votre présence ici en studio?
Oui, tout d'abord, je tiens à remercier vraiment Canal FM et les autres médias pour l'accompagnement permanent. Aujourd'hui, nous notons une maturité fiscale des contribuables au regard de leur contribution par rapport à la TVM. Bon, maintenant, le défi, c'est de faire adhérer tous les contribuables à payer cette TVM au plus tard le 31 mars de chaque année. Donc, l'obligation déclarative de la TVM s'étend du 1er janvier au 31 mars de chaque année. Et donc, la petite anecdote, c'est que, vous savez, je crois que le 2 janvier était un jour ouvrable. Beaucoup pensaient que ce jour-là, les gens devaient être à la maison. Mais bizarrement, quand nous étions au bureau à 7h30, d'abord, dès que je suis arrivé au bureau, il y avait, vous imaginez, dans cette incertitude-là, il y avait un contribuable qui était là le 2 janvier pour payer sa TVM. 5 minutes après, je reçois les rapports de CARA de Sokoudé, il y avait des contribuables qui étaient déjà là. Donc déjà, il y a une maturité qui est acquise. Maintenant, nous appelons, nous demandons à tous les autres contribuables, pour une raison ou une autre, peut-être raison de voyage, qui n'ont pas encore soumis, qui ne sont pas soumis à leurs obligations fiscales, de prendre des dispositions, de le faire avant. Il nous reste théoriquement 3 jours de s'acquitter de cette taxe.
Le 30 mars, c'est le lundi prochain.
Oui, nous avons pris toutes les dispositions au niveau des bureaux et divisions opérationnelles des impôts sur l'étendue du territoire pour pouvoir absorber tous nos contribuables. Et puis nous avons aussi l'application OTR TVM que nous avons mis en place, téléchargeable sur Google Play. En moins de 5 minutes au plus, vous avez payé votre TVM et tranquillement vous téléchargez votre quittance électronique.
Monsieur Ibrahim, prenons cette situation. Si j'achète un véhicule en décembre 2024 et je paie la TVM, suis-je encore redevable alors de cette taxe au premier trimestre de 2025?
Évidemment, merci pour cette question. Quand vous payez au cordon douanier en décembre 2024, dans les formalités d'honneur, vous payez la TVM pour le compte de l'année 2024 au prorata. Ce n'est pas le tarif annuel entier qui est défini, qui est calculé. Je prends un exemple. Pour un véhicule dont la puissance fiscale est de 6, c'est-à-dire situé entre 5 et 7, normalement la TVM, c'est 10 000 francs par an. Mais vous achetez votre véhicule en décembre. Ça veut dire qu'au cordon douanier, au moment de la liquidation des droits de douane et de la TVM, ça serait les 10 000 fois 1 sur 12, puisqu'il ne reste qu'un mois pour l'année. Et maintenant, l'année qui suit, à partir du 1er janvier, jusqu'au 31 mars, vous avez l'obligation de venir payer la TVM à nos guichets ou soit en ligne pour le compte de l'année 2025. Puisque c'est une taxe annuelle.
D'accord, puisque c'est une taxe annuelle. Voilà. Et nous sommes à la fin de cet entretien, mais il y a mon confrère Jean Legrand qui voudrait bien vous poser une question exceptionnellement.
Merci pour votre exposé. J'ai une question. Est-ce que les véhicules étrangers au Togo, ou soit les convoyeurs, ceux qui viennent, les transporteurs, ou les véhicules immatriculés de façon étrangère, mais qui vivent au Togo, sont également assujettis au paiement de la TVM?
Non. Suivant les dispositions de l'article 157, ces véhicules en transit, puisque vous avez dit les véhicules immatriculés en République togolaise, donc BF, RN, les véhicules de plaque étrangère ne paient pas la TVM ici.
D'accord. Oui, Ambrose?
Oui, moi je voudrais savoir... Pour les véhicules qui sont en circulation, j'ai acheté un véhicule, je l'ai sorti du port, je l'ai immatriculé, j'ai une carte grise, je l'utilise pendant 5 ans. En principe, quand vous achetez un véhicule, durant une période d'année, le véhicule, vous êtes obligé de l'amortir. Est-ce que l'OTR tient compte de cette réalité-là, ou bien, tant que le véhicule est en circulation, même si c'est à 20 ans après, vous devez continuer pas à payer la TVM. Ça, c'est un des deux. Mmh. Un véhicule que vous avez acheté, vous avez commencé par utiliser, à peine un mois, ça a des problèmes. Vous l'avez gardé à la maison pendant 5 ans. Ça ne roule pas. C'est dans votre garage. Voilà. Et vous avez pu trouver les moyens pour mettre en état. Donc, l'OTR va prendre, pour les 5 ans que vous n'avez pas circulé, prendre l'argent.
Mmh. Merci beaucoup.
Oui, monsieur Bami.
Oui, merci beaucoup, monsieur Ambrose, pour cette question. D'utilité publique, évidemment. Et par rapport à la première question, l'essence de la TVM, l'usage qu'on en fait par rapport à cette TVM, il s'agit de l'entretien des routes. Donc, c'est l'usage de l'engin, quelle que soit la durée d'utilisation qui est prise en compte. Tant que vous roulez, si vous utilisez la voie, vous usez la voie, vous êtes censé contribuer à l'entretien de cette voie. Donc, tant que le véhicule roule, vous faites vos déplacements normalement, quelle que soit l'amortissement du véhicule, vous devez contribuer par rapport à l'entretien routier. Bon, suivant par rapport à la deuxième question, le code général était très clair. Dès l'immobilisation d'un véhicule, pour une raison ou une autre, raison de voyage, accident, grosse panne, où vous sentez que le véhicule est immobilisé pour à moyen terme ou bien à long terme, la loi demande à ce que le contribuable écrive à l'Office togolais des recettes, notamment au commissaire des impôts, pour justifier les causes de l'immobilisation. Et à la suite, nous déclenchons une procédure d'immobilisation. vous envoyez le courrier, nous prenons la carte grise originale à notre niveau. La dernière quittance de TVM payée, et il y a une situation géographique, il y a un plan qui vous est donné afin de géoréférencer l'endroit où le véhicule est immobilisé, et une copie de votre carte grise. Et là, vous déposez ça au secrétariat de la section TVM et nous faisons un suivi technique du dossier. Si après 12 mois, nous voyons effectivement que le véhicule est immobilisé, alors votre dossier est éligible pour la délivrance d'un certificat de dispense pour le compte de l'année d'immobilisation. Donc la loi a tout prévu par rapport à cela.
D'accord, la loi a tout prévu par rapport à cela. Et voilà que c'est clair. Monsieur Bami, nous sommes à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot de la fin.
Non, le mot de la fin, toujours remercier Canal FM, remercier tous nos acteurs qui interviennent dans le mécanisme de collecte de la TVM. Et j'appelle tous les contribuables qui sont là. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes là. Ils peuvent affluer nos caisses. Ils peuvent faire le paiement en ligne. Vendredi également. Samedi, nous avons nos guichets au niveau de la direction des transports routiers qu'on appelle communément Sotopla qui sont ouverts. Ils peuvent faire les déclarations. Dimanche, ils continuent en ligne. Et lundi, c'est le dernier jour. Donc, je lance un appel à tous nos contribuables qui sont civiques, je le rappelle, rapidement, si c'est un oubli de rappel, d'acquérir, de s'acquitter de cette taxe au risque de subir des pénalités et aussi des contraintes liées au contrôle sur la voie. Vraiment, nous ne voulons plus vraiment avoir des rapports dans ce sens. Puis des gens pour des cas de maladie, des gens pour des urgences sont obligés de subir le contrôle et tout ça, ça amène des désagréments. Donc, nous avons encore 3 jours pour souscrire à cette obligation et rouler tranquillement.
D'accord. Monsieur Egbami Mazameso, merci d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes chef session TVM à l'Office Togolais des Recettes. Merci d'être passé dans cette émission et vous passez une bonne journée.
Merci à vous.
Sans transition, nous allons recevoir encore d'autres invités, bien sûr, qui vont s'installer dans quelques instants. Et c'est bien des invités qui nous viennent alors de la mairie Golf 4. La mairie Golf 4, nous allons, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin du mandat alors des maires. Et c'est l'occasion quand même de faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant pratiquement les 6 ans. Donc, nous avons en studio Monsieur Simplice Mdetodi. Monsieur Simplice, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Nous allons bien. Bonjour aux auditeurs de Canal FM.
Vous êtes conseiller municipal dans la commune alors de Golf 4. Oui. Et votre rôle en tant que conseiller municipal, je sais quand même que vous avez une autre attribution.
Oui. Je suis conseiller municipal à la commune du Golf 4. Je suis conseiller indépendant. Je viens d'une liste indépendante. Et je suis le président de la commission des affaires sociales. Et à la commune, quand on parle des affaires sociales, c'est du social, c'est de la santé, c'est du sport, c'est de la culture, c'est du tourisme, etc. Voilà.
D'accord. Oui, c'est vrai, je le disais pratiquement, après 6 ans au service de la communauté au Golf 4, que peut-on retenir comme réalisation dans les domaines de la santé, infrastructure, éducation et sociale? Nous allons prendre cela un à un. D'abord, prenons la santé. Quelles sont aujourd'hui vos réalisations ou des réalisations qui sont à l'actif alors du conseil municipal?
Alors, avant de continuer, je signale que nous sommes deux.
Effectivement, oui, allez-y.
Ok. Alors, au niveau de la santé dans la commune du Golf 4 aujourd'hui, je rappelle d'abord que la question de santé est dans une compétence partagée avec l'État. Dans la décentralisation, la santé est une question de compétence partagée. Cela veut dire que l'État doit réaliser la plus grande partie des actions en matière de santé et les communes doivent venir en appui. Bon statisticien, je dirais quelque chose de 80-90% pour l'État, 10% pour les communes. Mais voilà, quand nous étions arrivés avec la décentralisation en 2019, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, des problèmes d'hygiène, de santé. Et très tôt, le maire a posé un principe, qu'il faut régler les questions d'exclusion sociale. Et pour régler les questions d'exclusion sociale, il faut s'attaquer à l'hygiène et à la santé. Et sur la santé, sur la question de la santé dans la commune, nous avons 6 CMS, 6, 7, 8 CMS et nous avons fait un tour pour répertorier les jugences qui sont à régler. Ce qui a fait que nous avons réussi à réhabiliter une portion du bâtiment et le poutou de CMS d'Amoutivé, Amoutivé étant le canton de base de la commune du Golfe 4. Nous avons voulu mener une action de réhabilitation d'un bâtiment dans le CMS Nyekonakwe, que finalement l'État a pris en compte. L'État est revenu sur le sujet et l'a fait. Nous avons mené des actions au niveau du CMS de Atikoumé, Beklikame. Atikoumé, que les gens appellent souvent Abové, CMS Abové. Nous avons mené des actions là-bas. Nous avons mené une action d'envergure au CMS Wetrivikondi, qui est aujourd'hui la direction, qui abrite aujourd'hui en réalité la direction préfectorale de la santé du Golfe, où, à la suite d'un incident de décès d'une dame en couche, le maire a pris l'initiative d'aider, de venir en aide à ce centre. On a construit une nouvelle maternité, une grande maternité aujourd'hui, qui contient pratiquement tout ce qu'il faut pour un bon accouchement.
C'est-à-dire qui répond aux normes.
Qui répond aux normes, avec même des lits pour les lits pour la suite de couches, etc. Au-delà, nous avons aidé à acquérir une ambulance plutôt, pour le CMS Wetri Kondi aussi. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont à l'endroit des autres CMS. Je rappelle que depuis un certain temps, il y a des informations qui circulent sur le CMS Kodiviakopé, qui est aussi sur notre territoire communal. Sur le CMS Kodiviakopé, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Premièrement, nous avons réhabilité une latrine publique qui était dans l'enceinte, qui était en état de dégradation. On a retapé, on a refait tout neuf aujourd'hui. On a détruit l'ancien incinérateur qu'on a reconstruit. En 2024, dans le budget, nous sommes lancés dans la réhabilitation des bâtiments. Il y a un grand bâtiment là-bas qui est délabré un peu, qu'on voulait réhabiliter. Dans le budget, je crois que c'était autour de 60 millions. Et que dernièrement, des actions politiques des uns des autres sont rentrées dedans volontairement ou involontairement. Et cela a fait que le ministère de la Santé, qui devait mener les actions, a envoyé une équipe d'études sur le terrain qui ont évalué. Et aujourd'hui, ils ont prévu démolir carrément tout le bâtiment et reconstruire. Alors nous, l'agent, le montant qu'on a prévu sur cette ligne-là, nous sommes en train de vouloir renvoyer ça sur d'autres lignes de santé encore. Vous allez voir que depuis ce début de cette semaine, nous devons rendre le rapport demain au maire. Une équipe sillonne les CMS pour reprendre, réévaluer certains besoins.
C'est vrai que vous avez beaucoup de réalisations dans divers domaines. Mais compte tenu alors de notre temps, nous allons aller aussi très rapidement. Alors pour ce qui concerne les infrastructures, qu'est-ce que nous pouvons noter?
Les infrastructures, je préfère que M. Avici commence, il est le responsable des services techniques.
D'accord.
Je lui laisse la parole et je complète après.
Justement, donc vous l'avez si bien signalé, nous sommes avec M. Avici Divina Esso, qui est directeur des services techniques. M. Avici, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes directeur des services techniques par intérim dans la commune ou dans la mairie alors du Golfe 4. Alors concrètement, pour ce qui concerne les infrastructures aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut noter déjà dans les 6 ans que vous venez de passer à la tête alors de la commune?
Bien, et ce que nous pouvons noter au niveau des infrastructures au marché d'Amoutivé, nous avons construit un dépotoir. Et on a construit une latrine. Il y a l'éclairage des hangars avec des projecteurs. On a installé une prise électrique pour permettre aux commerçants de charger leur portable. On a construit un appartement et aménagé une boucherie au marché d'Amoutivé. On a aménagé le toit des hangars, posé des gouttières, puisque quand il pleuvait, l'eau coulait sur les marchandises. On a installé des enseignes lumineuses pour le marché, renforcement des portails. Bien, on a construit aussi des latrines publiques au marché.
Mais est-ce que c'est des infrastructures qui répondent aux besoins de la population?
Évidemment, c'est des besoins. On a fait des enquêtes et on sait que c'est un besoin. Quand il pleuvait, l'eau coule sur les marchandises. ils ne peuvent pas aller au WC. Quand tu vois la boucherie, tu ne peux pas acheter de la viande. Ça répond aux besoins. C'est suite à une enquête qu'on a vu qu'il fallait réaliser ces projets-là.
D'accord. Et vous les avez réalisés aussi.
On les a réalisés.
D'accord.
Ne s'arrête pas là. Mmh. Au marché de Codomé, il y a un grand projet là-bas de pavage des allées, de construction des hangars. Et il y a encore un projet pour réhabiliter la latrine. Il y a le projet d'éclairage public qui est déjà réalisé au marché de Hanoukopé et au marché de Codomé, parce que les commerçants se plaignaient qu'il y a des vols. Et donc, on a éclairé aussi le marché.
D'accord. Simplice, sur le plan éducation et social, qu'est-ce que vous avez réalisé?
Oui. Très rapidement, sur la question de l'éducation et de la jeunesse, nous disons éducation jeunesse. Vous savez que dans la compétence de l'éducation, la mairie gère les écoles primaires et les jardins d'enfants. Alors, très tôt, nous avons, vous connaissez le PP à Diomaï, à côté de l'église catholique de Berkelkamé. C'était une enceinte laissée ouverte, tous les passants circulaient entre les classes. Nous avons réussi à construire la clôture. Nous avons construit un nouveau bâtiment de 3 classes avec une direction et un magasin à l'intérieur. Nous sommes en train, dans le même projet, il y a une portion qui doit délimiter la portion jardin d'enfants qui doit être dans un enclos fermé à lui seul, qu'on est en train de faire. Nous avons aussi construit un nouveau bâtiment dans le PP Codomé. Et nous avons construit pratiquement dans toutes les écoles primaires des latrines avec addition d'eau de forage. Nous avons distribué des tables bancs à pratiquement toutes les écoles de notre commune. À Kodjoviakopé, Kpagame, finalement, c'est la plus petite enceinte, mais même ils appellent ça Kpagame. La Kpavime était en état de délabrement. Le maire a écrit au ministère de l'Éducation pour que ce bâtiment soit rasé carrément, s'amenant sur ruine. Et donc, nous avons réhabilité un bâtiment dans le Kpagame. Et nous sommes en train de leur demander d'évacuer les enfants d'ici pour les amener là. Là aussi, on a fait des latrines. On a fait les dispositifs des laves, mais dans toutes les écoles.
D'accord. Mais je pense que le mieux, c'est de réserver même d'ailleurs toute une émission pour ces réalisations, parce que vous avez beaucoup à dire et que nous avons aussi d'autres sujets à débattre ici au Club de la Presse lors de ce jeudi. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement pour le bien surtout de la communauté?
Bon, il reste beaucoup à faire. La désentralisation vient à peine de commencer. Il y a beaucoup de choses à faire. Les problèmes sont à plusieurs niveaux. Et pour ce mandat, nous avons fait le nécessaire pour régler ce que le maire appelle les questions basiques. Les questions basiques qui permettent à l'être humain de ne pas se sentir exclu de la société. Les questions de pièces de naissance, les questions de latrine, d'hygiène et de salubrité. Nous sommes en train de les régler progressivement.
D'accord.
Et donc, il en aura encore beaucoup à faire.
D'accord, on aura beaucoup à faire. Monsieur Abissi, c'est vrai, entre-temps, vous avez lancé un projet qui concerne alors le déguerpissement des ghettos. Et concrètement, où en êtes-vous avec ce projet?
Oui, ce projet, on l'a clôturé. On a déguerpi tous les ghettos. On a détruit les ghettos. Mais actuellement, il y a un autre projet. L'État nous demande de faire quitter tout le monde à la plage. Et c'est hier seulement que nous avons distribué des mises en demeure. Et donc, nous continuons. Nous continuons parce que nous avons détruit les ghettos, mais la population se plaint encore qu'ils sont revenus maintenant vers les maisons. Et ils cambriolent dans les maisons, ils fouillent et ils viennent rentrer dans l'eau. Et donc, le gouvernement a décidé...
Ça veut dire que le problème n'est pas réglé.
Ce n'est pas encore réglé. Oui. C'est réglé partiellement, mais il faut détruire, raser tout. Peut-être qu'il y aura un grand projet, un projet d'envergure pour la plage.
D'accord. Oui, c'est plus...
Oui. Oui. Oui, sur ce sujet particulièrement, vous avez, c'est des sujets assez complexes. Quand vous dégagez des gens qui ont occupé indûment des espaces publics, il faut vous attendre à des retombées, parce que c'est des personnes qui sont en mouvement. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à comment, à chaque fois, quand vous voulez poser des actions de déguerpissement, il faut réfléchir à la réinsertion, là où vous allez remettre les gens là. Or, c'est des gens qui ont occupé des espaces indûment. Donc, nous sommes en train de réfléchir à comment nous organiser pour mener cette action-là. C'est vrai que c'est l'autorité publique qui demande à le faire, mais nous interpellons l'autorité publique qu'on aille doucement, parce que c'est des populations, c'est des gens avec qui nous sommes, et nous irons pas à pas et prévoir des solutions alternatives à chaque moment. Pour ce qui concerne ce qu'on a dégagé de Cordoue-Jacob, en réalité, il y avait du problème là-bas, un problème d'insécurité par rapport aux commerçants qui sont au bord de la route. Nous les avons tous dégagés, nous avons tous démoli, mais aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à comment remettre les commerçants, eux, en place pour qu'ils fassent leur activité.
D'accord. Maintenant, il y a aussi ces questions de dépotoirs sauvages dans votre commune. Et comment vous réglez cela?
C'est ce sujet très complexe. Quand nous mettons la chaîne de l'enlèvement des ordures devant vous, les mairies gèrent sur leur territoire communal, ils doivent gérer les déchets des maisons vers un dépotoir intermédiaire retenu sur leur territoire. Et le district du Grand Lomé se charge de l'enlever du dépotoir intermédiaire pour l'amener au centre d'enfouissement technique. Dans ce système où vous travaillez, quand régulièrement la chaîne a des soucis au niveau de l'enlèvement final par les équipes du Grand Lomé vers le dépotoir, le centre d'enfouissement. Dès qu'ils ont un souci là-bas, les déchets commencent par s'entasser sur votre dépotoir intermédiaire et les dépotoirs sauvages commencent par se créer dans votre commune. Et nous, on est régulièrement dans cette situation. Le maire même a réussi à faire un contrat avec ANASAP pour enlever tous les dépotoirs intermédiaires de notre commune. Mais après, les dépotoirs sont revenus carrément. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec nos CDQ, que je salue, qui font un grand travail aussi. Nous sommes en train de travailler avec nos CDQ pour que eux qui sont plus proches de ces dépotoirs puissent intervenir, puissent aider à régulièrement enlever les ordures.
D'accord. Oui, mais Simplice, c'est vrai, je le disais, nous allons aller rapidement et terminer aussi avec cette dernière question. Et c'est vrai, nous avons appris que vous avez construit une nouvelle salle alors de mariage et c'est à de centaines de millions. Et c'est vrai, je sais que la question doit vous faire rire, mais est-ce que c'est vraiment la priorité? Parce que, est-ce qu'au-delà de tout, vous n'avez pas au sein, enfin déjà dans cette commune, Golfe 4, est-ce que vous n'avez pas d'autres priorités que cela?
Oui, vous me demandez si c'est la priorité. Je dis oui, que c'est la priorité. L'une des compétences propres des communes, c'est l'état civil. L'état civil, c'est la naissance jusqu'au mariage. Une commune qui n'a pas une salle de mariage digne de ce nom n'est pas une commune. Il ne faut pas se voiler la face. Traversez le monde entier, allez dans les communes, vous verrez. Maintenant, les gens disent que c'est à coup de centaines de millions. On va actualiser ces données-là dans leur tête. Nous avons acquis un bâtiment. Nous avons acquis une maison.
Et
dans tout ça là, moi je n'ai plus les chiffres, 100 combien de millions, on l'a réhabilité. Et la portion de la salle de mariage, c'était un espace libre dans cette maison là avant. C'est sur cet espace là qui nous a donné la chance de construire une grande salle. C'est pas seulement une salle de mariage. Les éléments qui sont dedans sont pour le mariage, mais c'est la salle, tout conseil municipal doit avoir sa salle de conseil municipal. C'est aussi notre salle de conseil municipal. Quand on a commencé, on travaillait dans le salon de quelqu'un, là où le maire siège aujourd'hui, toujours, plus tôt. Et donc, nous avons construit cette salle-là. On l'a décorée de manière que ça soit que ça garde l'envergure qu'une salle de mariage doit avoir.
C'est juste
le début. Ça répond aux normes. Maintenant, les gens n'ont qu'à venir célébrer leur mariage dans les meilleures conditions, nous les invitons.
D'accord. Nous sommes à la fin de cet entretien, monsieur Awissi. Un mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, c'est au niveau de l'assainissement. Nous appelons la population à plus de civisme parce que nous avons les caniveaux, on les cure régulièrement, mais la population aussi les remplit aussi régulièrement. Donc, qui nous aide à plus de civisme. Que chacun n'a qu'à s'abonner chez les structures de pré-collecte et pour qu'ils puissent leur faire l'enlèvement des ordures.
D'accord. Et Simplice, mot de la fin?
Oui, moi, je voulais dire merci à nos équipes techniques qui font un travail très apprécié. Et je voulais inviter la population à du civisme dans tous les sens. Quand les gens attendent des choses, il faut voir qu'ils tirent sur les autorités qui font un travail énorme déjà. On a la tête à faire du travail. On ne va pas prendre notre temps pour répondre à de petites tout à l'heure on traitait d'un sujet. Vous verrez, les gens vont dire des conneries.
Mais on ne va pas dire qu'ils iront des conneries, c'est des critiques. Peut-être que ce sont ces critiques qui vont vous amener à évoluer, à avancer.
Dans ces critiques-là, il y a des aberrations que nous devons continuellement actualiser. Sinon, tout le monde va croire que celui qui parle en premier dit la vérité. Non, ce n'est pas ça.
Mais le bien, c'est de donner la bonne information.
Oui. Et nous les invitons à aller à la bonne information. Chercher la bonne information sur un sujet de mairie, c'est aller à la mairie. Le maire est disponible tout le temps là-bas. Il prend des gens, même dans un emploi du temps assez compliqué, mais il prend des gens. S'il ne peut pas prendre régulièrement, les renvoie. J'ai en charge les questions sociales.
Il me les renvoie
régulièrement. On en traite. Et quand on vous tire les conclusions, vous allez voir que les conclusions sont à l'opposé de ce que les gens prétendent. Et donc, nous les invitons au civisme surtout.
D'accord, merci beaucoup, M. Rondetodi Simplice. Vous allez rester avec nous. Je sais que sûrement, et à partir de midi, comme c'est le principe de l'émission, nous allons donner l'opportunité à nos auditeurs et qui vont certainement vous poser des questions, puisqu'il y a des gens qui sont dans votre commune, qui vous écoutent, bien sûr, et qui vous poseront des questions, certainement. Et donc, vous restez avec nous. Alors, sans transition, par rapport même d'ailleurs, surtout à cette question de dépotoirs sauvages et aussi d'assainissement, puisque les mairies sont toujours interpellées sur ce point, sur la question alors de l'assainissement. Et c'est vrai, il y a un confrère qui est spécialiste alors de l'environnement avec nous. Et toi, rebonjour.
Bonjour Pascal.
Je suis intéressé par cet article-là que vous avez écrit, et le titre, c'est bien. Et ces localités du littoral où l'on défèque encore à l'air libre.
Oui, merci Pascal déjà pour l'opportunité que vous nous donnez. Je tiens également à saluer les chers auditeurs et nos confrères aussi en studio. Effectivement, c'est un constat. Nous sommes allés sur le terrain et le constat était assez amer. Nous avons constaté que dans la localité de Devikopé, d'Adissénou, de Gounoukopé, ce sont des localités où les riverains continuent toujours par déféquer à l'air libre. Et souvent même près de la mer, c'est-à-dire près de l'océan. Et parmi ces riverains, il y a également des pêcheurs, voilà, qui se livrent à ce genre, voilà, je vais pas donner un nom pour caricaturer. Mais je dirais que c'est assez triste que ce genre de réalité puisse se passer dans ces communautés. Et la question, quand nous avons posé la question, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas de latrine, ils n'ont pas de toilette publique, et donc ils sont obligés, voilà, de faire comme ils peuvent.
Et alors, quand ils disent qu'ils n'ont pas de latrine, ils n'ont pas... Est-ce qu'ils... déjà, quand on prend Devikopé, je pense que c'est dans le Golfe 6, pas loin de Bagida, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une latrine publique par après?
Ah bon, en tout cas, selon nos recoupements et selon ce que nous avons fait comme travail, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de latrine. Même s'il y avait, je ne crois pas que ce genre d'activité serait assez légion, parce que c'est dans toute la zone... Et ce n'est pas seulement Devikopé. Comme je le dis, il y a également d'autres communautés qui vivent la même situation. Et au travers de cet article, c'était pour nous quand même, l'occasion d'interpeller les autorités compétentes, que ce soit les autorités communales, que ce soit même le ministère de l'Environnement. Qu'est-ce qui se fait concrètement pour, amener cette population-là à revoir cette manière de faire? Aujourd'hui, on parle de droit de l'environnement, c'est-à-dire nous tous avons droit à un environnement sain. Et ce genre d'attitude, tout d'abord, n'aide pas la faune marine, n'aide pas l'océan, puisque, il y a des pêcheurs qui s'en vont, ils prennent les poissons. Les poissons, finalement, ce sont quel genre de poissons nous sommes en train de consommer quand, immédiatement, autour de ces bords de notre mer, qui est de ce genre d'attitude.
D'accord. Ouais. C'est vrai que c'est des débats que nous avons toujours menés. Je sais que c'est des débats qui vous intéressent beaucoup, par rapport surtout à l'assainissement. Mais quand on prend aujourd'hui la plage qui normalement devait constituer d'endroits de loisirs où on devait rester, et même d'ailleurs se déstresser un tout petit peu, mais on voit quand même qu'avec cette défécation à l'air libre, la plage est polluée.
Bon, moi, je
je suis étonné d'entendre ça, parce que c'est vrai que l'homme, étant un animal têtu, a souvent des comportements, même si vous vous interdisez. Il y a même des milieux où, quand c'est quand vous interdisez, que les gens affluent pour pouvoir commettre l'infraction. Et normalement, c'est la responsabilité de la mairie de prendre des dispositions pour éviter que cela... Nous, on était à Niakonakpé dans les années 80. En cette période, on peut parler de ça, jusqu'en 90, où nous, on s'y en est la plage. Et il y avait ces trucs-là. Mais il y avait aussi des nageurs. En cette période-là, je parle de 90, hein, jusqu'en 2000, des gens compulants qui étaient... Même si tu urines, on te prend ici. Mon grand frère a été victime de ça. On te prend ici, tu perds 5 000 francs. Je parle de 94. Pour dire que il y avait une surveillance tacite de la plage en cette période-là. C'est vrai que quand les gens descendent vers la ville, l'ancienne ville, j'appelle ici l'ancienne ville, et il n'y a pas de WC public, comme notre ami l'a dit, qu'ils ont construit des WC publics. Ça, c'est un élément essentiel pour lutter contre les défécations à l'air libre et surtout protéger le cadre de vie environnemental. Et s'ils arrivent à multiplier, ça serait une très bonne chose. Ils ont déjà commencé. Il serait bien qu'ils multiplient. Ça ira de leur avantage dans leur actif. Maintenant, la plage est occupée, hein, depuis Agbavi jusqu'à ici. Il y a eu, je crois, des bars, des restaurants qui sont créés. Sauf que là aussi, la dernière fois, j'apprenais qu'on est en train de renvoyer les gens. Ce qui, moi, m'a fait mal, parce que les gens ont investi. Et j'ai dit ici que les gens ont encore des visées bizarres dans la tête. Et quand vous avez des idées bizarres, c'est tellement qu'il y a quelqu'un ici qui a du poids, qui a de l'argent, qui est du régime, qui veut ramasser tout ça là et prendre. Parce que là-haut, eux, ils ne créent jamais. C'est là-haut, quelqu'un d'autre vient initier.
Mais c'est pas la raison qui a été donnée quand même. On parle d'un projet.
Non, eux vont vous donner des raisons. Ceux qui sont à la plage, ce ne sont pas des Togolais. Bon, ça, je dépose ça. Donc, pour pouvoir lutter efficacement contre la défécation à l'air libre au niveau de la plage, parce que la plage, c'est pour nous tous. Hein. Moi, quand c'est un dimanche, je prends mes enfants, on vient à la plage. Ce n'est pas la même chose pour les Nigériens. Ce n'est pas la même chose pour les Maliens, les Burkinabés. Notre chance, c'est qu'on a une plage. Et le minimum, quand tu es stressé, les enfants veulent aussi circuler un peu dans la ville, connaître la ville, tu les amènes à la plage. Maintenant, avec la défécation, ce n'est pas possible. Maintenant, le problème, c'est qu'on occupe ça à frais. C'est-à-dire que tu es obligé de venir payer avant de venir à la plage. Ça, c'est discutable. En ce sens qu'il y aura des plages pour la population où les gens n'ont pas besoin de payer. Et il y aura aussi ceux-là qui sont un peu nantis, qui veulent s'asseoir, boire quelque chose. C'est ce que les gens, les autres vont faire, on est en train de les casser. Donc aujourd'hui, je pense que la mairie Golf 4 devrait accentuer la sensibilisation, comme ils le font si bien ici, et ensuite de mettre des garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi? Ce n'est pas forcément la police. Nous, on avait parlé de la police environnementale depuis près de plus de 10 ans, dans le cadre de notre sensibilisation au niveau de l'Observatoire Ouest Africain de l'Environnement. Et la loi a prévu quand même une police environnementale qui n'est jamais à l'ordre du jour. Et si la mairie Golf 4 peut avoir une police à l'interne, ne serait-ce que surveiller la plage et certaines de leurs réalisations qui sont importantes pour la communauté, je crois que c'est une bonne chose.
D'accord.
Parce que la plage, c'est vrai, c'est situé dans la zone Golf 4, mais c'est une plage qui appartient au Togolais, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et ceux aussi de la diaspora qui viennent. Et nos amis de l'Interland.
D'accord. Oui, mais Jean, c'est vrai que ce n'est pas seul la mairie Golf 4 qui est concernée, hein, par cette question de la défécation à l'air libre. On citait même d'ailleurs de Vicopé maintenant, qui est dans le Golf 6. Alors, Jean, aujourd'hui, quand on est au 21e siècle, quand on nous dit qu'il y a des gens sont dans les quartiers périphériques de la capitale, qui n'ont pas de latrine à la maison et qui défèquent à l'air libre, est-ce que déjà ce n'est pas aussi grave pour l'assainissement?
Oui, c'est extrêmement grave, vous savez.
Et pour l'environnement surtout.
Quand vous apprenez ça défraie la chronique, parce qu'on est au 21e siècle. Et Lomé n'est pas une ville n'importe laquelle, c'est la capitale togolaise. Et vous savez, avant les années 90, on parlait de Lomé comme Lomé la Belle, Lomé qui était une ville propre. Mais malheureusement, à l'avènement de la démocratie, les gens ont mal compris le concept. Et c'est devenu comme il faut détruire pour prouver qu'on est en opposition à ce que le gouvernement est en train de faire. Et moi, fort aujourd'hui, les mentalités n'ont pas encore totalement changé. Et moi, quand j'apprends que les gens continuent d'efféquer à l'air libre, ça me pose deux soucis. Un, c'est le souci d'éducation et de sensibilisation. Si aujourd'hui les gens continuent d'agir de la sorte, c'est que, un, ils n'ont pas compris en fait qu'en faisant cela, ils se font du mal à eux-mêmes et ils font du mal à le reste de la population. Parce que, tantôt on l'a expliqué, vous déféquez à l'air libre, l'eau emporte vos déchets, qui vend à l'intérieur, les poissons le consomment et ces poissons sont pêchés et vous sont revendus. Vous voyez que cela crée en même temps un problème de santé publique. Et outre cela maintenant, il faut également voir le problème d'infrastructure où les mairies, notamment de ces localités-là, doivent se mobiliser pour mettre en place les latrines. Les latrines ne coûtent rien aujourd'hui. Il y a du travail, mais les gens se contentent parfois d'autres choses. Mais on mobilise les taxes, mais l'essentiel là, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Il faut le faire, il faut sensibiliser d'une part. Également, Ambroise a tantôt parlé du police environnementale. Il faut commencer par le faire. Parce que c'est dommage qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller à la plage, vous n'avez que ces plages privées-là qui sont un peu propres. Mais le reste où vous voulez amener vos enfants, vous mettez un pied, vous rencontrez un caca. Vous allez, si vous rencontrez des odeurs nauséabondes, c'est pas bien. Dans d'autres pays, des dispositions ont été mises en place pour quand même que la plage soit un endroit agréable où on est libre d'aller. Et je crois que, véritablement, avec l'avènement de la décentralisation, les mairies doivent vraiment prendre la mesure de la chose pour qu'on les sente davantage au cœur des besoins des populations.
D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est cette situation qui fait fuir peut-être alors certains du pays, parce que vous écrivez, Canal D, vous écrivez ce matin, sondage, un tiers des Togolais favorables à l'immigration. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de Togolais veulent maintenant partir pour l'étranger?
Oui, ces chiffres sont alarmants et un peu ahurissants, mais ils ne viennent pas de nous. C'est un sondage qui a été réalisé par Afrobaromètre, qui est un institut de sondage qui produit beaucoup d'enquêtes. Et cette enquête réalisée a permis de comprendre que 35% de Togolais âgés de 18 à 35 ans sont favorables à l'immigration.
C'est des bras valides.
C'est des bras valides. Pour vous avez le pays. Les statistiques, quand vous allez plus en profondeur, vous avez 41% à Lomé, 44% de citadins, et vous avez 57% de personnes valides qui sont prêtes à quitter le pays. Mais quand on regarde au fond, on observe que un grand pourcentage affirme, je dis 40%, déclare vouloir quitter le pays pour trouver un emploi. Et un autre pourcentage plus élevé parle de situations économiques défavorables. Mais quand vous observez ça et que vous sommez toutes ces statistiques et vous rendez compte qu'un tiers de Togolais, il faut reconnaître que quand l'article est sorti, plusieurs m'ont dit non, mais les chiffres ont été vus au plus bas mot. On peut même parler de deux tiers, voire 90% qui veulent partir. Parce que imaginez un État qui investit en vous depuis que vous êtes petit. Aujourd'hui, on dit que l'éducation à l'école primaire est gratuite. L'État subventionne beaucoup de choses jusqu'à ce que vous obteniez votre bac, l'université. Et ces personnes veulent partir, mais ma foi, l'État a perdu beaucoup. Tout ce qu'on a investi. Et maintenant, vous allez quitter pour aller faire valoir votre capacité dans un autre pays.
Est-ce que l'État est conscient de cela? C'est aussi ça.
Mais c'est des articles comme ça qui sont faits pour interpeller les décideurs. Parce que si vous avez un tiers, selon les statistiques de votre population, qui veut immigrer, ma foi, il faut commencer par réfléchir. Un tiers de sa population, c'est faute de moyens que ces gens ne sont pas partis. Et je vous dis qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, même les chefs cantons jouent à la loterie Visa. Il faut réfléchir. Si beaucoup de chefs cantons, selon les informations, jouent à la loterie Visa, c'est dit qu'il y a un problème. Et il faut que les
quitter leur pays.
Parce que ça ne va pas sur le côté économique. Quand vous regardez, vous allez à l'intérieur. Écoutez ce que les gens disent. Ma foi, économiquement, ça ne va pas. La pauvreté, la misère ambiante sont légion. C'est vrai qu'à Lomé, vous voyez un peu que ça bouge. Mais quand vous rentrez à l'intérieur du pays, ma foi, c'est compliqué. Malgré les chiffres qu'on nous donne, côté économique, le Togo, ça va, on a telle réforme. Mais sur le plan purement, la réalité, mais les chiffres sont un peu dichotomiques. Et je crois que c'est pour interpeller les autorités. Parce que si économiquement, ça ne va pas, c'est qu'au niveau de la gouvernance,
il faut améliorer. Il faut améliorer. Ces sondages ne sont pas faits pour dire du mal du PIB. C'est pour interpeller. Parce que plus tôt on comprend le mal, mieux on l'appréhende. Mais si on fait la sourde oreille, après c'est une bombe qui explose et on ne sait plus à quel sens se vouer.
D'accord, merci. Ambrose, oui. C'est vrai que il est souvent dit qu'on est mieux chez soi qu'ailleurs. Mais au même moment, avec ce sondage, on voit quand même que beaucoup de Togolais, ou du moins un tiers, si je m'en tiens au chiffre qui est donné, un tiers des Togolais préfèrent partir à l'étranger.
Oui, est-ce que moi je parierais que si on dépose 100 Togolais, 95 voudra partir. Il suffit que deux nations étrangères.
Mais là, c'est votre sondage maintenant.
Je l'ai déjà dit. Il suffit que deux nations étrangères de l'Occident offrent des visas à 8 millions de Togolais. Écoutez-moi très bien. 8 millions, vous allez voir, moi, 7 999 000 quitter le Togo. Peut-être que moi, je ne vais pas dedans.
Il ne restera que seul Togolais,
oui,
c'est ça.
Parce que peut-être que vous ne me verrez pas du sens patriotique du terme. Je l'ai toujours dit. Je ne suis pas trop tenté. Je ne sais pas ce qui se passe souvent. Et j'ai un autre confrère qui l'a dit, il l'a martelé. On peut aller, on peut voyager, revenir. Mais moi, baissé à des mains là. Je ne suis pas sûr. Et il y en a même qui s'illusionnent. Les gens partent. Hein. Mais le retour, ils ne vous le diront pas. Ce qu'ils ont espéré avant de quitter, ils sont retrouvés. Vous allez voir certains de nos confrères. C'est vrai, c'est là-bas, c'est mieux. Je suis d'accord avec eux. Et je n'empêche personne d'aller. Mais je dis, ils reviennent souvent, ils font un mois. La plupart du temps, ils vont en boîte, ils vont acheter cet ami-là, il fait ceci. Et il est obligé de recourir pour partir. Tout simplement pour pouvoir aller payer tout ce qu'il y a à payer là-bas. C'est-à-dire l'électricité, l'achat des enfants et tout ça là. Il y en a qui ont quitté, mais ils ne peuvent jamais amener leurs enfants. Parce qu'ils sont allés sur le sceau de réfugiés. Et jusqu'à ce que tu aies un papier, après 5-10 ans, tu vois le dégât que ça crée. Mais les gens me diront que, ça vient d'où? Il a soulevé en dernier ressort. On parle des raisons économiques. Mais il y a une raison qui se cache derrière les raisons économiques. C'est la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire qu'ils sont tranquilles ici. Ils se disent qu'ils gouvernent. Il a dit aussi, mais quand ça va mal dans votre pays, vous ne cherchez pas à savoir. Parce que ça aussi, c'est un grenier qui est en train de partir. Hein? Un grenier électoral. Parce que s'ils sont là, ils vont encore manifester dans les rues. Ils n'ont qu'à partir là. Ils sont prêts même à laisser 500 personnes ici, et que les autres quittent, et ils vont gouverner. Moi, j'aurais aimé que tous les Togolais quittent le Togo, qu'on vende le Togo, qu'on distribue l'argent à tout le monde.
Non, mais vous
malheureusement,
êtes patriotique.
Malheureusement,
vous êtes patriotique.
Bah, justement, malheureusement, je suis patriote. Pour ne pas aller sur ce terrain-là, parce que personne ne comprend rien. Vous n'arrivez pas à gouverner. Quittez un peu là. Quittez que d'autres aussi viennent gouverner, on verra la différence là. Si vous voulez rester là-bas, vous voulez rester, un jour vous mourrez. Je vous dis, de fort jusqu'au dernier ministre, personne parmi eux ne fera plus de 50 ans. Moi-même, je ne ferai plus pas. Pour dire qu'en réalité, on se trompe quoi? À cause de ce fauteuil, à cause du ventre, on s'accroche.
D'accord.
Et il y en a qui sont autour du président qui ne lui dit pas la vérité. Monsieur le président, vous avez fait déjà 20 ans, ce serait mieux. Garde à toi si tu dis ça. Ton procès est sauté.
Merci, Ambroise.
Tu vois?
Merci, Ambroise.
On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Les autres pays évoluent autour de nous. Et nous, on est toujours en esclavage. Mitya Boyo, c'est ça on dit en témoin.
Merci, Ambroise. Oui, attends. Quand on prend des jeunes qui quittent le pays. Mais c'est tel que je l'ai dit tantôt, c'est des bras valides pour le pays et il est très important quand même que l'État pense à ce problème.
Effectivement, c'est vrai que le problème il est assez pertinent et comme le confrère vient de le soulever tout de suite, c'est véritablement un pays qui rentre vraiment dans une fraîche partie voilà de sa population qui est totalement dépeuplé. Donc selon moi, je crois que il est assez important aujourd'hui de pouvoir voir dans la mesure du possible comment on peut amener ces jeunes-là à être beaucoup plus intéressés. Voilà, comment on peut intéresser ces jeunes? Quand je dis intéressé, c'est de voir. Nous savons déjà que il y a des choses qui se font.
Il y a des choses qui parlent de l'emploi.
Effectivement. Mais il y a également cette possibilité aussi de pouvoir insérer les jeunes dans des emplois verts. Aujourd'hui, on parle du vert, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas véritablement ce que c'est. Il y a des métiers verts. Et je crois que l'État devrait également exploiter cette opportunité pour amener les jeunes à s'intéresser véritablement à leur pays et à faire valoir ce qu'ils ont comme potentialité. Cela va de l'intérêt du pays à pouvoir véritablement se développer.
D'accord. Voilà. D'accord. Oui, mais on va aborder le dernier sujet hein, pour le compte alors de cette émission. C'est bien politique, mais nous allons au Niger. Oui, la junte au pouvoir, on le sait très bien. Et Jean, hier, ça a été l'investiture alors du général Abdourahmane Tiani. Et là, Abdourahmane Tiani, le général qui s'offre maintenant 5 ans sans élection présidentielle. Et là, est-ce que ce n'est pas un coup que la démocratie vient de recevoir comme cela?
J'analyse cette situation et moi, elle ne me surprend pas parce que quand vous observez et la dynamique dans laquelle les pays de l'AE sont notamment le Mali et le Burkina Faso, vous comprendrez que le Niger n'a pas de choix que de suivre la même dynamique s'ils veulent avoir une unicité de vue et d'action. Parce que regardez, au Mali, Assimi Goïta aussi a pris 5 ans. C'est de bonnes guerres, en fait. Et c'est dans l'ordre normal des choses qu'au Niger, la même chose survienne. Parce que il faut une période de transition au cours de laquelle les fondements de ces pays puissent être véritablement rebâtis.
Vous comprenez? On parle de refondation.
Refondation. Une refondation ne se décrète pas en 1 an, 2 ans. Vous voyez comment ces pays ont été gouvernés avec les nouveaux hommes forts que nous avons. Ces derniers ont décidé de mettre en place une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique, c'est vrai, nous qui sommes dans les pays dits démocratiques aujourd'hui, on les regarde de loin parce qu'on dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas » on a comme l'impression que c'est un autre monde qui est en train de se créer. Ben, moi, j'ai envie de dire, donnons 5 ans pour voir véritablement ce qui peut être fait. Parce que c'est une nouvelle alternative que ces pays sont en train de démontrer. Déjà en rompant avec les accords coloniaux, ils veulent se donner une nouvelle manière de se développer. On attend de voir. Mais moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on ne sombre dans une autre dictature qui ne dit pas son nom. Parce que c'est vrai qu'on veut se tourner vers d'autres pays, vers d'autres partenaires qui puissent aider à développer ces nations. Mais une fois qu'on commence à prendre goût au pouvoir, et bon, je dis, parfois, le développement, on le relègue au calendrier grec et on est préoccupé plus par son confort et par le désir de consolider son pouvoir. Et j'espère que ces régimes militaires ne vont pas sombrer de ce côté.
Ambrose, finalement, est-ce que la démocratie n'a pas été piétinée quand on voit que déjà, donc on parle de putschisme, mais la junte au pouvoir hein, dans ces 3 pays pratiquement s'offre alors des mandats, presque des mandats bien sûr, pour sans que le peuple alors ne leur offre cela. Mais finalement, on se poserait la question de savoir, mais qu'est-ce que la démocratie est devenue?
Oui, quand on prend le mot dans son sens étymologique et quand on le compare à la réalité, au Mali, je crois que la démocratie est en train de prendre un coup. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, qu'est-ce qui a conduit à ce scénario? Vous savez que c'est des pays qui ont été contingentés pendant des dizaines d'années et gouvernés par procuration, par l'État, les dirigeants français, comme c'est d'ailleurs le cas du Togo, le cas de plusieurs pays francophones. Et il est arrivé à un moment donné, personne n'a imaginé que le Mali, le Burkina et le Niger sortiront des griffes du régime français en expulsant Manu Militari et leurs militaires. Parce que les militaires ne sont pas là pour en fait protéger les Maliens ou les Nigériens. Ils sont là pour protéger leurs intérêts. Le cas du Niger particulièrement, l'uranium des sites, Arlit et autres. Et maintenant, le volet politique de la chose, c'est que ceux qui sont arrivés sont des militaires. Ils ne sont pas des politiques. Et ils ne sont pas des civils. Et quand un militaire prend le pouvoir, vous savez ce qu'il en fait. D'abord, il a un petit goût du pouvoir. Et ensuite, il se transforme en civil, comme ça se passe actuellement au Gabon. Et là, ce qu'on peut craindre, c'est qu'on galvaude les principes démocratiques pour des réalités dictatoriales ou autocratiques. Moi, je suis un démocrate. Je suis pour le fait qu'on expulse tout ce qui est influence ou ingérence étrangère dans la vie politique d'une nation africaine. Parce qu'on vient de très loin. On a quitté l'esclavage, on est allé à la colonisation, on est allé à d'autres formes de colonisation, même des Arabes nous ont colonisés. Et maintenant, on tombe dans les dictatures militaires. Ces dictatures militaires, il faut les amener progressivement à comprendre que nous avons quitté la démocratie qui a été galvaudée, mais à un moment donné, il va falloir que vous reveniez à de meilleurs sentiments. Parce que eux, contrairement à ce que nous avons ici, nous sommes dans un régime dictatorial ici, habillé par les militaires tout autour. Là-bas, c'est la même chose pratiquement. Sauf que là-bas, quand les gens ont les armes, l'intonation est différente et les tonalités aussi diffèrent. Comment les amener à comprendre que vous avez votre peuple? Ici, on ne nous aime pas. Je veux être clair. Personne ne nous aime au Togo ici. La preuve, la constitution qu'ils ont ramenée, ils ont faite, ils ne nous ont pas consultés. Et maintenant, ils ont renversé, les gens ont pris la tête en bas et les pieds en haut. Au lieu de passer par le peuple, ils l'ont fait d'abord notamment et en catimini. Maintenant, ils reviennent à la charge pour aller sensibiliser. Pour revenir au Mali, au Niger, je dis aujourd'hui que ces peuples-là ne sont pas... Bon, je ne peux pas les comparer à nous parce qu'on a fait les nôtres dans les années 90 et les gens peut-être sont fatigués ou sont enlacés. Là-bas, c'est des gens qui se comportent comme les Arabes. Hein. Quand les militaires vont continuer ce qu'ils font là, moi je ne les adule pas parce que pour les aduler, ils ont chassé les Français, je suis très content. Ils ont mis hors d'état de nuit ceux qui le mais il faut qu'ils écoutent le peuple. Refaire les élections pour ramener les civils. Ramener les civils qui répondent à ce qu'eux, ils veulent. Pas parce qu'ils veulent placer leurs hommes. Pour que la démocratie s'installe et qu'on sache que tout ce que le pays génère en termes de ressources puisse être profitable à ceux qui sont dans le pays.
D'accord,
aujourd'hui, on est face à des régimes qui risquent d'être des régimes à craindre. Parce qu'au Burkina, déjà, on commence par arrêter des gens à tout bout de champ. Moi, ça ne me plaît pas. En Guinée, on arrête des gens, en bandoulière, on vous prend, on vous kidnappe. Ce n'est pas ça ce que le peuple veut. Le peuple veut
qu'il y ait un assainissement.
Le peuple veut aussi qu'il y ait une démocratie qui ne soit pas habillée comme chez nous.
D'accord.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous et avec quelques minutes que nous avons, nous ne pouvons que recevoir, toutes nos excuses d'abord, hein, nous ne pouvons que recevoir pratiquement trois auditeurs. Premier auditeur, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour Basile, votre radio à côté de
la
vous.
Radio.
Oui,
c'était très bien. D'accord, pour vous saluer, vous avez fait de bons débats. On n'a qu'à... et dire que tout ce qui se fait dans notre pays ne se fait pas dans les règles de l'art. On ne dit pas qu'on est toujours là et on est là pour l'éternité. Et ça, on doit vous dire, cette constitution, c'est du bluff. Ils n'ont qu'à le savoir, il n'y a pas ça dans un autre pays au monde. Ouais, ce n'est pas au Togo ici qu'on va avoir ça. Mais là où le bas blesse, c'est quand il y a des gens, comme vos collègues, qui vont venir défendre ça bec et ongle. C'est ça que moi, ça ne me plaît pas.
Merci, Basile, pour votre intervention. Bonjour, Club de la Presse. Concernant les citoyens qui défèquent à la plage, le gouvernement peut même passer outre les mairies et mettre un projet de construction de latrines publiques sur toute l'étendue du territoire national. Ce que le nouveau Sénat va coûter en une seule mandature peut suffire pour construire tout cela. C'est Florian qui nous écoute depuis l'Allemagne et qui réagit bien sûr. 90, 86, 35, 35. Allô?
Bonjour Pascal.
Bonjour Patrick, comment vous allez?
Bien et vous?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu, allez-y.
Je salue vos confrères.
Oui.
Bon, c'est le rapport de l'Afrobaromètre là qui m'intéresse quoi.
D'accord.
En fait, bon, nous-mêmes, nous ne comprenons pas, hein, parce que c'est vrai ce que l'autre là dit là. Mais je passe. Mais pourquoi, la cause c'est quoi? Pourquoi les gens veulent partir? Mais écoutez, là où moi, où ça me blesse de plus, c'est que ce que l'État même forme, ce que l'État forme, après leur formation, ben, ils partent. Au lieu de servir l'État, ben, ces gens-là vont ailleurs, c'est-à-dire, et pour faire leur boulot, au lieu d'aider les compatriotes qui sont au pays, ces gens-là partent. Si je peux citer l'exemple de la médecine, même au niveau de l'armée, il faut voir au niveau de l'ETR, allez-y comprendre quelque chose là-bas, les gens partent. Il y a quoi au juste? Comme il y a pas de temps, je m'arrête là.
D'accord, merci Patrick pour votre intervention. On a encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Bonjour Canal FM. Si nous, les jeunes Togolais, on quitte le pays, c'est parce qu'on a trouvé mieux ailleurs. J'aime mon pays, mais c'est pas pour cela. Si les choses vont de mal en pis, je suis obligé d'y rester. C'est André qui nous écoute depuis Dakar. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour Jeff.
Oui, c'est
Sylvain.
Ah, Sylvain.
Oui.
Allez-y.
Je salue les conseils qui sont autour de toi.
D'accord, merci.
Bon, franchement, l'autre phénomène que je crains, est très fort dans l'avenir, que ça va vous tombez sur la tête, c'est la vente des maisons à Lomé. Je ne sais pas qu'est-ce qui pousse les gens à vendre leurs maisons. Je ne sais pas pour quitter ou bien pour aller faire leur vie ailleurs. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'à Lomé, trouver des maisons, maisons à vendre, maisons à vendre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si Ambroise a fait une étude de ça. Il faut une enquête. Les gens vendent leur maison. Je ne sais pas pour, c'est pour partir, c'est pour voyager. Je ne sais pas.
Ah, Sylvain, qui nous a quitté. Donc, je pense que Sylvain, c'est le dernier auditeur hein, pour le compte alors de cette émission. Nous allons revenir en plateau, chers confrères, et faire un dernier tour de table avant de clôturer, bien sûr, l'émission. C'est vrai que nous n'avons pas eu assez de temps pour recevoir nos auditeurs, hein, pour que, du moins, si vous posez des questions, je veux bien parler alors de vous, monsieur Ntodi. Oui. Ntodi, Simplice. Mais vous avez écouté quand même les uns les autres et se prononcer sur l'actualité. Oui. Maintenant, si vous avez un mot de la fin par rapport à tout ce que vous avez dit concernant les réalisations dans le Golfe 4.
Bon, je vais parler de deux choses. Oui. La première, c'est par rapport au premier article, par rapport à la plage, à la défécation sur la plage. Vous savez, la commune du Golfe 4, il y a actuellement 3 latrines dans la commune du Golfe 4 sur la plage. Il y a d'autres en projet, monsieur Amichi peut-être les précisera le sujet. C'est réel, mais on ne va pas faire de la plage, on ne va pas faire les latrines sur toute notre plage. Vous savez, quand dans la commune du Golfe, les bars s'installaient, nous tous on applaudissait au moins, ça rendrait la zone propre. C'était insalubre par le passé. Et subitement, l'État a décidé qu'à Golfe 4, on n'a donné aucune autorisation à qui que ce soit pour s'installer. C'est des installations de fait, mais qui ont des raisons réelles. Et imaginez tous ceux qui ont garé sur la plage les véhicules. Il y avait une gare routière dans l'enceinte du Grand Marché. C'est transformé en un bâtiment à 5 étages aujourd'hui. Quand la commune du Golfe 4 faisait la demande au ministère de l'économie pour mettre à disposition ce terrain, pour reconstruire une gare routière pour le marché, on nous a dit que c'est mis à disposition de l'EPAM. Et voilà ce qu'on en a fait. Tous ceux qui sont dedans, leurs véhicules vont garer où? Ce serait à la plage. Nous sommes en train de faire des projets pour aménager la bordure de la plage, pour les transformer en parking. On nous dit dégager les gens. Mais les gens sont là-bas. Maintenant, vous les dégagez pour aller où? On nous demande de le faire. Nous sommes en train de réfléchir, mais voilà les problèmes qui sont là. La deuxième chose, c'est par rapport aux infrastructures que la commune. Aujourd'hui, nous tendons vers la fin. Cette année, nous avons voulu embrasser les infrastructures sportives pour la jeunesse. Dans notre budget, il y a pratiquement 900 millions qui sont prévus pour les stades des trois équipes, grandes équipes de la commune et sur le terrain d'Akassimé de C2A. C'est en cours. Voilà. Et donc, il y a du travail à faire. C'est pour cela que je disais qu'il y en a encore à faire.
D'accord, il y a du travail à faire. Il y en a à faire. Oui, Jean, nous sommes à la fin.
Je vais embrayer sur la question sportive, comme il l'a dit. Vraiment, il faut qu'on essaie de voir le cas de nos éperviers parce que quand vous suivez le mal des éperviers, vous sortez toujours avec les mots de cœur. Il faut que ça s'arrête, en fait. Si on va abandonner, comme je l'ai dit, on abandonne tout pendant 5 ans. On travaille véritablement pour former une base et revoir nos problèmes internes. Parce que ça ne sert à rien qu'on aille grossir le rang des humiliés à chaque match.
D'accord. Ambroise?
Moi, je voudrais revenir sur la protection de la plage. On en a parlé de la police environnementale ou de la brigade verte, et que cela soit si cela peut être fait, surtout avec discrétion. Les gens sont là, mais ils ne savent réellement que quelqu'un est là pour les surveiller, pour éviter des agressions aussi, parce que très souvent, quand on confie ces genres de missions à des gens qui ne sont pas forcément formés, il y a du zèle qui apparaissent. Puisque c'est moi qui l'ai sorti, j'aurais aimé que cette police-là intervienne, mais qu'elle soit faite, formée et déployée, mais de façon discrète. S'il y a quelqu'un qui veut sortir du cadre, on l'interpelle et on le verbalise, et c'est ça. Mais s'il persiste, il faut amener les sanctions. Donc
Merci Ambroise. Oui, Hector?
Oui, bon, moi, mon mot de fin, c'est de saluer l'adoption de la loi sur la lutte contre les changements climatiques. que
par l'Assemblée nationale.
Oui, à l'Assemblée nationale, que je trouve assez salutaire, voilà, cette initiative du gouvernement qui permet véritablement de renforcer tout ce qui est initiative autour vraiment de cette lutte contre les changements climatiques. Parce qu'avant, c'est vrai, il y avait des actions, mais ce n'était pas vraiment dans un bien, ce n'était pas dans un cadre approprié. Mais maintenant, je crois qu'avec le travail, en tout cas louable des ONG, cette loi a été adoptée et nous attendons véritablement de voir ce qui en sera sur le terrain.
Monsieur Vissi, merci beaucoup, Eto. Oui, monsieur Vissi, 30 secondes.
D'accord, merci. Moi, je vais intervenir sur la défécation à la plage. Et nous, on a essayé de faire une petite enquête. Il y a certains qui ont des WC dans leur maison, mais ils préfèrent déféquer à l'air libre. Je crois que c'est une sensibilisation qu'on doit faire et aller jusqu'à la répression.
Bien qu'il y a une latrine publique, ils préfèrent
déféquer à l'air libre.
Ah bon, ça existe?
Ça existe.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Awissi Divina Isso. Et je rappelle que vous êtes directeur des services techniques par intérim à la commune ou à la mairie du Golfe 4. Merci d'être passé alors dans cette émission. Monsieur Mdetodi Simplice, vous êtes également, enfin, vous êtes conseiller municipal. Et merci d'être passé alors dans cette émission. Merci. Conseil municipal au Golfe 4, bien sûr. Et merci, Jean Polorini, d'être passé alors dans cette émission. Ça fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Canal D. Merci Ambroise Kondro d'être passé dans cette émission. Vous êtes directeur de publication du journal des Guadiens. Merci Eton Amang d'être passé alors dans cette émission. Vous êtes directeur de publication du journal en ligne Vert Togo. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'environnement. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous également qui nous avez appelé pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutsa a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.
Cette émission vous a été offerte par la bière Vachteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Vachteiner, la vie dorée.